Vous écoutez, on lit pour vous.
Auto-formation, mieux accueillir les personnes handicapées, un texte de la rédaction, paru le 1er mai 2025, sur le site web du gouvernement du Québec, québec.ca. Adopter les meilleures pratiques afin d'offrir un service à la clientèle inclusif. Si vous travaillez avec le public, vous allez probablement accueillir une personne handicapée. En effet, au Québec, près d'1,5 million de personnes ont une incapacité. Cela représente 21% de la population québécoise de 15 ans et plus, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. Vous avez un rôle à jouer pour réduire les obstacles qu'une personne handicapée pourrait rencontrer. Peu importe son incapacité, elle doit pouvoir accéder aux mêmes services que le reste de la population. Soyez prêt à accueillir une personne handicapée. Comme avec toute autre personne, soyez attentif, accueillant, courtois, flexible et patient. Demandez à la personne si elle désire obtenir de l'aide, plutôt que de présumer qu'elle en a besoin. Mais sachez surtout vous adapter à la personne qui est devant vous. Chaque personne est différente. Si une personne accompagnatrice est présente, adressez-vous toujours directement à la personne handicapée. Si le recours à l'aide de la personne accompagnatrice s'avère nécessaire, assurez-vous que la personne handicapée comprend la conversation et qu'elle soit impliquée. Si un chien guide ou un chien d'assistance accompagne la personne, évitez de le distraire ou de vous adresser à lui puisqu'il travaille. C'est la personne handicapée qui est responsable du contrôle de son animal. Les chiens d'assistance ne portent pas tous un collier ou un harnais spécial. En cas de doute, vérifiez auprès de la personne s'il s'agit d'un chien au travail. Pour faciliter les échanges avec les personnes dont l'incapacité a des répercussions sur la compréhension, il peut être aidant d'utiliser la communication orale simplifiée. Parler lentement, prononcer clairement, utiliser des mots courants et des phrases courtes, poser une question ou discuter d'un seul sujet à la fois, éviter les jeux de mots ou les expressions à double sens. Assurez-vous que votre message ait bien été compris. L'incapacité motrice. L'incapacité motrice est l'une des incapacités les plus fréquentes dans la population québécoise. Elle comprend les incapacités liées à la flexibilité, difficulté à se pencher ou à tendre les bras, la mobilité, difficulté à se déplacer, à marcher et à utiliser les escaliers, la dextérité, difficulté à se servir des doigts pour saisir de petits objets. Conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité motrice. De simples mesures peuvent contribuer à réduire les obstacles que rencontrent les personnes ayant une incapacité motrice qui se rendent dans vos locaux. Assurez-vous que l'aménagement des lieux soit accessible pour tout le monde. Gardez les allées et les corridors dégagés de tout obstacle. Aménagez des comptoirs qui sont à la bonne hauteur et qui comprennent un espace de dégagement en dessous. Disposez les présentoirs et les marchandises pour qu'ils soient facilement atteignables. Veillez à ce que les dispositifs de paiement par carte ne soient pas fixés au comptoir. Pensez à créer une salle d'attente inclusive qui prévoit des espaces pour les personnes en fauteuil roulant. Sauf en cas d'urgence, ne touchez pas à l'aide technique de la personne, fauteuil roulant, déambulateur, etc., sans avoir eu son autorisation. Si une personne vous autorise à déplacer son fauteuil roulant, suivez ses consignes. Assurez-vous qu'elle est prête avant de la déplacer et informez-la à l'avance de ce que vous allez faire. Évitez les surfaces inégales et les obstacles. Assurez-vous qu'elle ne soit pas dans une position gênante, dangereuse ou indigne, comme face à un mur ou dans le passage de porte qui s'ouvre. Le trouble de santé mentale. La santé mentale est un état de bien-être. Cet état permet à une personne de surmonter les obstacles de la vie, de se réaliser, d'être productive et de participer à différentes activités. Les troubles de santé mentale peuvent prendre diverses formes, entre autres les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles psychotiques. Comprendre le trouble de santé mentale. Les troubles de santé mentale sont généralement invisibles. C'est un état de santé caractérisé par une altération de la pensée, de l'humeur ou du comportement. Cela cause des dysfonctionnements, de la souffrance ou de la détresse. Certaines personnes ayant l'un de ces troubles peuvent rencontrer des obstacles dans l'accomplissement de leurs activités. Ces difficultés se reflètent en particulier dans le cadre de leurs relations interpersonnelles et de leur travail. Conseil pour accueillir une personne ayant un trouble de santé mentale. Vous pouvez adopter des comportements qui contribuent à améliorer l'expérience de la clientèle présentant un trouble de santé mentale. Si la personne paraît tendue, stressée ou confuse, restez calme. Respectez son rythme et son besoin d'être comprise. Faites-lui savoir que vous entendez sa demande. Expliquez-lui le plus clairement et le plus poliment possible ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Si la personne n'est plus disposée à vous écouter, vous pouvez l'emmener dans un environnement où il y a moins de stimuli. Si la personne est dans un état d'agressivité, restez calme. Évitez d'élever la voix pour vous faire comprendre. Si un inconfort est ressenti, mettez fin à la rencontre. Proposez un autre rendez-vous si la situation le permet. Pour une communication réussie, reformuler les propos de la personne et vous assurer d'avoir bien compris permet de rassurer la personne ayant un trouble de santé mentale. Cela stimule les échanges et facilite les rapports. Il est préférable de ne rien dire plutôt que d'improviser maladroitement. Les silences ont souvent leur place et s'avèrent habituellement bénéfiques. Ils permettent de faire une pause en plus de faire baisser la tension. L'incapacité visuelle. La plupart des personnes ayant une incapacité visuelle ont un résidu visuel. C'est-à-dire qu'elles peuvent percevoir certaines images. Elles peuvent avoir une vision centrale, une vision périphérique, une vision embrouillée ou une vision avec des taches. D'autres personnes ont toutefois une cécité totale. Comprendre l'incapacité visuelle. Les personnes ayant une incapacité visuelle ont de la difficulté à voir des détails très fins, même avec des lunettes ou des verres de contact. Leur incapacité est permanente. Il est également difficile pour elles d'identifier les gens et les objets dans l'entourage immédiat. Circuler dans un environnement non familier peut représenter un défi. Pour communiquer, ces personnes peuvent utiliser le braille, un lecteur d'écran ou une synthèse vocale. Ces outils permettent de transformer un texte en contenu vocal. Pour se déplacer, elles peuvent utiliser une canne blanche ou un chien guide. Elles demandent parfois l'assistance d'une autre personne. Conseil pour accueillir une personne ayant une incapacité visuelle. Pour améliorer l'expérience de la clientèle ayant une incapacité visuelle, suivez ces conseils de manière proactive. Assurez-vous que les lieux soient accessibles en maintenant l'entrée, les passages et les portes libres de tout obstacle. Si les portes n'ont pas d'accès automatique, gardez-les complètement fermées ou complètement ouvertes. Pour décrire un endroit ou donner une direction, utilisez des mots précis comme « à gauche », « à droite », « devant » et « derrière ». Évitez de hausser la voix. Avant de guider une personne ayant une incapacité visuelle, demandez-lui d'abord si elle souhaite être aidée. Dans le cas où la personne vous demande de l'aide pour remplir un formulaire, vous pouvez l'assister ou lui transmettre celui-ci. Respectez le format de son choix si elle souhaite le remplir elle-même. Vous écoutez « Auto-formation, mieux accueillir les personnes handicapées », un texte de la rédaction paru le 1er mai 2025 sur le site web du gouvernement du Québec, québec.ca. L'incapacité auditive. On distingue trois types de personnes ayant une incapacité auditive. Les personnes sourdes, qui ont une surdité de sévère à profonde, qui a été révélée avant d'avoir appris à parler. Les personnes devenues sourdes, qui ont développé une surdité importante après avoir appris à parler et à écrire. Les personnes malentendantes, qui ont une surdité dont la gravité peut varier de légère à sévère. Elles entendent, mais partiellement. Comprendre l'incapacité auditive. L'incapacité auditive se manifeste par la difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation en personne, à entendre une conversation téléphonique, à entendre certaines tonalités ou certains sons. Les personnes ayant une incapacité auditive ne savent pas nécessairement lire, particulièrement celles qui sont nées sourdes. Il peut être nécessaire d'adapter les documents et services en conséquence. Même si une personne utilise une aide auditive comme une prothèse auditive ou un implant cochléaire, elle n'entend pas nécessairement tous les sons. La communication avec elle nécessite des ajustements. Conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité auditive. Pour aider une personne ayant une incapacité auditive à communiquer aisément avec vous, vous pouvez mettre en pratique ces techniques. Privilégiez un endroit calme afin d'éliminer les bruits ambiants si la personne le désire. Dégagez votre visage et votre bouche afin de les rendre bien visibles en vous plaçant devant la personne. Assurez-vous que la personne vous regarde avant de lui parler. Parlez plus lentement et articulez davantage sans toutefois exagérer le mouvement de vos lèvres. Même si la personne est accompagnée par une personne interprète, adressez-vous toujours directement à elle. L'incapacité intellectuelle. L'incapacité intellectuelle se manifeste par des défis concernant le fonctionnement intellectuel et le comportement adaptatif. Les personnes ayant cette incapacité peuvent apprendre et comprendre à divers degrés. Elles possèdent des aptitudes, des habiletés et des compétences qu'elles développent elles-mêmes ou avec un soutien approprié. Comprendre l'incapacité intellectuelle. Les personnes ayant une incapacité intellectuelle ont de la difficulté à saisir des concepts abstraits ou à anticiper les conséquences d'une action. Elles peuvent aussi rencontrer des obstacles sur le plan des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques. Par exemple, comprendre et utiliser des concepts liés à l'argent. Interagir socialement, effectuer des tâches quotidiennes comme la préparation d'un repas, le ménage ou les soins personnels. Conseils pour accueillir une personne ayant une incapacité intellectuelle. Vous pouvez aider une personne ayant une incapacité intellectuelle à interagir avec vous pour bien répondre à ses besoins. Assurez-vous d'abord que la personne comprenne votre message. Privilégiez des phrases courtes et des mots simples. Utilisez des éléments visuels pour illustrer vos propos. Posez-lui des questions fermées ou demandez-lui de résumer vos explications dans ses propres mots. Donnez-lui le temps d'exprimer son besoin sans l'interrompre. Prenez le temps de vous familiariser avec la façon dont elle s'exprime. Si la personne a de la difficulté à lire ou à écrire, aidez-la en lui lisant les informations dont elle a besoin à voix haute. Vous pouvez les simplifier ou les reformuler. Si la personne doit prendre une décision, expliquez-lui clairement les options qui s'offrent à elle et les conséquences qui y sont liées. Le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme est une incapacité invisible avec différents degrés de sévérité. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. Il se distingue principalement par des défis liés à la communication et aux interactions sociales. Les comportements, les activités et les intérêts de la personne sont, dans certains cas, spécifiques ou répétitifs. Comprendre le trouble du spectre de l'autisme. La personne ayant un trouble du spectre de l'autisme a souvent de la difficulté à bien interpréter les messages qu'elle reçoit de son environnement. Elle peut parfois sembler indifférente ou désintéressée lorsqu'on s'adresse à elle. Tout changement dans la routine d'une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme peut entraîner une perte de repère. Il est possible que cela engendre une détresse importante, accompagnée quelquefois de réactions émotionnelles subites et démesurées. Les activités familières sont rassurantes puisqu'elles comportent peu d'imprévus. Conseil pour accueillir une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. Pour offrir un bon service à une personne présentant un trouble du spectre de l'autisme, assurez-vous que la personne comprenne bien votre message. Faites des phrases courtes. Utilisez un vocabulaire facile à comprendre. Posez des questions qui nécessitent des réponses comme « oui » ou « non ». Assurez-vous d'obtenir son attention avant de poursuivre la conversation. Évitez les jeux de mots ou les expressions à double sens, puisque la personne pourrait comprendre l'information au premier degré. N'interprétez pas les moments d'attente ou d'absence de réponse immédiate comme un manque de coopération de la part de la personne. Soyez indulgent et compréhensif envers elle. Souvenez-vous qu'elle peut être hypersensible à certains stimuli comme la lumière ou de la musique trop forte dans la salle d'attente. Elle peut également être dérangée par un contact physique comme une poignée de main. L'incapacité de la parole ou du langage. L'incapacité de la parole concerne la prononciation, l'articulation ou l'utilisation de sa voix. L'incapacité du langage occasionne des difficultés à utiliser ou à comprendre les sons, les mots, les phrases, le discours ou encore les règles sociales de la communication. Cette incapacité n'est pas liée à une incapacité intellectuelle. Comprendre l'incapacité de la parole ou du langage. Une personne ayant une incapacité de la parole ou du langage peut avoir tendance à moins s'exprimer. Pour elle, parler prend plus de temps, puisque cela lui demande une planification pour prononcer les sons, les mots et les phrases. Certains sons se ressemblent encore plus au téléphone comme B et P, F et S. En plus de rendre les sons difficiles à distinguer, le téléphone enlève le support visuel qui aide la personne ayant une incapacité de la parole ou du langage. Conseil pour accueillir une personne ayant une incapacité de la parole ou du langage. Pour vous assurer d'offrir un bon service à ces personnes, il peut être judicieux de privilégier un endroit tranquille où il y a peu de distractions et de bruits ambiants. La communication sera plus facile si vous utilisez un langage simple et clair. Faites preuve de patience et de compréhension. N'infantilisez pas la personne en essayant de deviner les mots qu'elle souhaite prononcer. Laissez-lui du temps pour qu'elle puisse s'exprimer, comprendre et assimiler ce que vous dites. Concentrez-vous sur ce que la personne dit et non sur le comment elle le dit. Vous pouvez vérifier que la personne vous a bien compris en lui posant des questions simples pouvant être répondues par oui ou non. Au besoin, reformulez et simplifiez votre message. C'était « Auto-formation, mieux accueillir les personnes handicapées », un texte de la rédaction paru le 1er mai 2025 sur le site web du gouvernement du Québec, québec.ca.
Dans « L'indomptable mammouth », des leçons à tirer, des réformes passées en santé. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. En décembre 2024, la nouvelle Société d'État Santé Québec a été officiellement lancée au moment où s'amorçait un cycle de compression budgétaire. Or, l'histoire ne fait que se répéter encore, constate la journaliste au Devoir Marie-Michèle Sioui et l'ex-conseiller politique Pascal Mayotte, qui ont publié mardi le 22 avril 2025 un livre sur les réformes ayant façonné le système de santé québécois. Dans l'ouvrage « L'indomptable mammouth », dont le titre fait référence au lourd réseau de la santé, les deux auteurs commencent leur récit peu avant l'entrée en vigueur du régime de l'assurance maladie dans les années 1970 et le terminent avec la création de Santé Québec. Le livre, truffé de dialogues et d'anecdotes, donne la parole à des politiciens de différents partis qui reviennent entre autres sur des réformes des dernières décennies ayant été minées par des contraintes budgétaires. C'est le cas notamment du virage ambulatoire du ministre péquiste Jean Rochon au milieu des années 1990 qui visait à réduire la durée des hospitalisations et à augmenter le nombre de chirurgies d'un jour et les soins à domicile. L'obsession du gouvernement de l'époque d'atteindre le « déficit zéro » a toutefois coupé les ailes à cet élu en plein vol, écrivent les auteurs. Au beau milieu d'une réforme, les investissements dans les services de première ligne sont reportés aux calendes grecques. L'État réduit les soins offerts dans les hôpitaux, mais ne compense pas en ajoutant des ressources à domicile. À l'heure actuelle, Santé Québec fait ses débuts dans un contexte où les finances publiques sont dans le rouge, soulignent Marie-Michèle Sioui et Pascal Mayotte en entrevue. Il y a peut-être des leçons du passé qu'on devrait commencer à tirer. À travers la courte histoire, il apparaît évident que ce n'est pas nécessairement une bonne idée de faire une réforme dans une période de compression budgétaire, soutient la journaliste. Les turbulences sont cependant inévitables dans le lancement d'une réforme comme celle qui a mené à la création de la nouvelle Société d'État, ajoute-t-elle. Mais comme journaliste et comme québécoise, j'ai hâte de voir les résultats que Santé Québec va apporter. Dans les coulisses de la gestion de la pandémie. Au fil des pages, l'indomptable mammouth jette entre autres un nouvel éclairage sur la gestion de la pandémie de COVID-19 en révélant la dynamique à l'intérieur de la cellule de crise gouvernementale à l'époque, soulève en entrevue Pascal Mayotte. Durant la première vague de la crise sanitaire, M. Mayotte participait à titre de conseiller politique aux délibérations du groupe formé notamment du premier ministre François Legault et d'Horacio Arruda, qui était alors directeur national de santé publique du Québec. Pour moi, qui était de l'autre côté en étant correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale, Ça a été une révélation de voir à quel point tout ce qui pouvait se dire dans ces réunions était chargé et à quel point toutes les décisions étaient lourdes de sens, renchérit Marie-Michèle Sioui. Les deux auteurs rappellent que la pandémie a notamment mis en lumière les failles du système, comme la coordination défaillante, la communication chaotique et la lourdeur structurelle. Cela a donc accéléré le virage vers la réforme ayant mené à la création de Santé Québec, fait remarquer Pascal Mayotte. Pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, il était impossible que le réseau continue de marcher de cette façon-là. Selon lui, ça prenait une entité responsable des opérations pour que le système puisse fonctionner comme il faut, explique Marie-Michèle Sioui. Le livre révèle entre autres que l'élu caquiste avait posé une condition pour accepter de se représenter aux élections québécoises de 2022, avoir le feu vert de François Legault pour lancer une réforme durant son mandat actuel. La première campagne de vaccination durant la pandémie de COVID-19, en décembre 2020, a d'ailleurs servi de laboratoire afin d'observer l'efficacité du réseau lorsque les orientations y sont séparées des opérations. La santé publique donnait les orientations, mais elle ne s'occupait pas de trouver les lieux où vacciner, par exemple, soulève la journaliste. Hommage aux travailleurs. Hors de la sphère politique, les réformes ont eu de réels impacts sur les travailleurs de la santé, rappelle Marie-Michèle Sioui. Ce sont eux qui subissent au quotidien la réalité des hôpitaux, des CLSC et des CHSLD. C'est leur deuxième maison. Dans le livre, Alice Milas relate entre autres comment, dans les années 1990, son métier d'infirmière en CLSC s'est transformé. La bureaucratie prenait désormais plus de place dans son quotidien. Certains jours, elle avait l'impression de passer plus de temps à remplir des formulaires qu'à soigner des patients, se remémore-t-elle dans l'ouvrage. Marie-Michèle Sioui espère que les soignants verront l'indomptable mammouth comme un hommage à leur travail. J'aimerais qu'ils lisent le livre et se disent « On est bon, on est passé au travers de cycles politiques et de réformes et... malgré tout, on a continué à soigner la population, dit-elle. C'était dans L'indomptable mammouth, des leçons à tirer des réformes passées en santé, un texte de Florence Morin-Martel paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.